Nous allons lire dans Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 7. Dans le chapitre 20 d'Exode, le Seigneur donne les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et nous allons citer un des commandements. Je crois que pour certains même, ils ne connaissaient pas ce commandement. Parce que dans la vie chrétienne, en général, les gens finissent par s'habituer à une série de choses et oublie le reste. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc dans la Bible, il n'y a pas qu'une partie de commandements ou de conseils qu'il faut considérer. Il faut considérer tout. Et on a souvent tendance à considérer seulement une partie. C'est pourquoi de temps à autre, le Seigneur veut nous faire goûter les autres parties de la parole. Notamment ce commandement du verset 7, puisque nous savons qu'il ne faut pas adorer les faux dieux, il ne faut pas adorer les statues. On sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Mais nous allons lire maintenant le verset 7. Un commandement du Seigneur, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. La particularité de ce commandement, c'est qu'il est suivi d'une menace, alors que dans les autres, la menace n'est pas immédiate. Donc elle est générale, si on n'obéit pas au commandement du Seigneur, on est sous la malédiction. Mais là, avec ce commandement, il y a une menace directe. Donc dans le commandement même, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc il y a une menace directe. Dans la Bible, rien n'est fait au hasard. Donc quand il y a une menace directe comme ça, ça veut dire que le Seigneur veut insister, veut appuyer sur le fait qu'il ne faut pas faillir à la chose. Il faut vraiment faire attention. Parce que la menace est liée au commandement lui-même. Ça veut dire que notre vie en dépend. Ce n'est pas un ordre général des choses, mais c'est vraiment quelque chose qui est attaché à nous. Attention, ne prends pas le nom de Dieu en vain. Attention, parce que tu risques d'être puni. Alors que tout péché, bien sûr, amène à la mort, mais ce commandement en particulier est suivi d'une menace, et donc on doit prendre ça au sérieux. À tel point, ça doit nous servir de leçon, que les Juifs qui ont les premiers reçu ce commandement ne citent pas le nom que Dieu leur avait donné. Parce que quand Moïse avait demandé à Dieu, « Quel est ton nom pour que j'annonce à ton peuple ?» Le Seigneur a donné YHWH. Certainement, quand il avait donné à Moïse, il y avait tout. Mais aujourd'hui, il ne nous reste plus que YHWH, qui est le nom de l'Éternel. Donc partout où dans votre Bible vous voyez Éternel, dans l'Ancien Testament, en réalité c'est YHWH. Je suis celui qui suis. Donc c'est ce que ça veut dire, YHWH. Et celui qui suis, je suis celui qui suis, ça veut dire aussi l'Éternel. Et donc on a préféré dans les versions à nous les chrétiens mettre à la place d'YHWH l'Éternel, Mais les Juifs, eux, ils ont laissé YHWH. Et ils prennent ça tellement au sérieux que eux, ils ne disent pas Dieu. Les Juifs n'ont pas l'habitude de dire Dieu. Ils disent Hachem. Ils disent le nom. Hachem, ça veut dire le nom. Ils appellent Dieu le nom. Si Hachem veut, voilà par un exemple. Nous, quand on dit si Dieu veut, les Juifs disent si Hachem veut, si le nom veut. Donc, ils ont tellement peur de prononcer ce nom parce qu'ils ont pris vraiment à la lettre ce qui est écrit là. Ça doit nous servir de leçon parce que nous, on va parler de l'explication, mais à partir de cette explication, le sérieux doit être le même parce qu'eux, ils ont pris à la lettre, il ne fallait pas prononcer YHWH, il ne fallait pas prononcer le nom de Dieu, ils se limitent à dire le nom. Si Hachem veut, si le nom veut, quand ils doivent parler de Dieu, ils disent Hachem, le nom, tout simplement. Ils ont pris au sérieux. Et donc, nous devons nous servir de cela pour prendre ce commandement au sérieux. Mais nous, nous savons que ce n'est pas le nom lui-même qui est visé dans cette affaire. Ce n'est pas parce qu'on dit Hachem, ce n'est pas parce qu'on dit le nom qu'on respecte le nom de Dieu. Donc, on peut dire Hachem, on peut dire le nom, on peut ne pas prononcer ça. Dire celui qui est l'éternel, ce n'est pas ça qui est le plus important, même si ce n'est pas négligeable. Dans le nom de quelqu'un, il y a son titre. Dans le nom de quelqu'un, il y a son importance, ses qualités, ses prérogatives, parfois, dans son nom, il y a ça. Quand on dit, on donne le nom d'une personne, en fonction de son titre, parfois, on ajoute quelque chose. Et nous voyons même dans le monde, quand on est ambassadeur, on t'appelle Votre Excellence. On est président, Votre Excellence. On est député, Votre Honneur. Donc, on est avocat, maître. Donc, il y a, en fonction du titre de quelqu'un, en fonction du travail de quelqu'un, en fonction de son importance, on ne cite pas son nom n'importe comment. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on rajoute qui marque l'importance de la personne qui est en face de nous. Donc, le nom, nous qui voulons être spirituels, nous comprenons que dans le nom, il y a la personnalité de l'individu. Dans le nom, il y a les qualités, il y a le titre, il y a la valeur. Donc, nous n'allons pas nous limiter juste au nom, mais nous voulons comprendre par ce commandement que Dieu veut dire qu'il faut prendre au sérieux le fait qu'il est Dieu. Il faut prendre au sérieux sa nature. Il faut prendre au sérieux ses qualités. Il faut prendre au sérieux sa volonté. Donc, quand on cite son nom, on doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. À qui on parle, on doit prendre bien conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est cela, ce commandement. Ce n'est pas une histoire juste de ne pas prononcer un nom. D'ailleurs, là, Dieu ne refuse pas qu'on prononce son nom, mais il dit que tu ne le feras pas en vain. C'est ça qui doit nous intéresser. Attention, quand tu parles de Dieu, il faut prendre au sérieux le fait que tu parles de Dieu. Quand tu pries Dieu, il faut considérer que tu le pries. Il ne faut pas faire des formules rapides, machinales, donc habituelles. Avec le temps, tu commences à prononcer le nom de Dieu, tu commences ça devient même pour certains des exclamations. Il y en a lorsqu'ils font, ils se cognent quelque part, ils citent le nom de Dieu. Ou bien ils disent « Jésus ». Mais non, mais c'est devenu une exclamation. Attention, on commence là à prononcer le nom de Dieu en vain. Et il y en a, quand ils parlent de Dieu, ils ne prennent pas conscience que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est comme si c'était un être invisible, inconnu, flou. Et ils prient pour prier, ils en parlent pour parler, mais ils ne prennent pas conscience de qui ils ont affaire. Ils ont affaire à qui? Nous devons prendre conscience parce que Ce commandement ressemble à une exhortation que Paul nous fait dans 1 Corinthiens par rapport à la Sainte Cène. Il dit « Les gens qui prennent la Sainte Cène à la légère prennent leur propre commandement, leur condamnation. » Ils sont en train de signer leur propre condamnation des gens qui prennent le pain et le vin à la légère alors qu'ils ont des péchés, alors qu'ils ont la colère en eux, alors qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas réglées. Ils sont en train de manger leur propre condamnation. C'est le même commandement. Donc quand Dieu dit « Attention, ne prononce pas mon nom en vain parce que tu seras puni », il ne s'agit pas de la punition éternelle. La punition éternelle, c'est valable pour tous les péchés. C'est valable pour tous les péchés. Moi, je lis ce commandement, à cette exhortation de Paul, à cet avertissement de Paul. Quand tu prends la Sainte Cène, attention, parce que si tu ne considères pas l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, si tu ne considères pas qu'il est venu pour nous sauver de notre corps de péché, si tu ne considères pas qu'il est venu pour nous donner une nouvelle nature, pour nous donner un avenir qui ressemble, un état qui ressemble à celui de Dieu, si tu ne considères pas tout ça, et pour te remettre en question, tu es en train de manger ta propre condamnation. Et là, il dit, si tu prononces mon nom en vain, tu viens, tu parles, mais tu ne considères pas dans quel état tu es, tu ne considères pas qui Dieu est, tu es en train de prononcer ta propre condamnation. Donc là, il ne s'agit pas de punition, de sanction liées, finales, liées à tous les péchés, lorsqu'on n'est pas sauvé. Il s'agit bien des difficultés, des souffrances qui vont s'abattre sur nous dans la vie de tous les jours, des échecs qui vont s'abattre sur nous dans la vie de tous les jours. Donc l'explication là, de certaines des souffrances qui sont dans les milieux chrétiens sont dues à ce commandement de Exode 20, 7, que beaucoup négligent et que je pense que beaucoup ne connaissaient même pas, ou bien avaient entendu dans le lointain autrefois, mais aujourd'hui le Seigneur veut nous réactualiser ça. C'est-à-dire quand tu viens prier, tu viens faire quoi? Le Seigneur n'a pas dit qu'il cherche les parfaits, mais il cherche ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Il ne dit pas que quand tu viens, tu dois être l'homme le plus pur, l'homme le plus saint, mais que tu dois savoir ce que tu fais. Quand tu cites son nom, tu dois savoir ce que tu fais. Ce n'est pas n'importe quel nom. Tu ne citeras pas son nom en vain. Vaut mieux te taire. Vaut mieux ne rien dire. Vaut mieux ne rien faire plutôt que citer son nom en vain. Parce que tu es puni immédiatement. C'est écrit, bien-aimé, ce n'est pas moi. C'est écrit. Et je répète que ce n'est pas la même punition. Il ne s'agit pas de la punition générale concernant tous les péchés, c'est-à-dire l'enfer. Il s'agit d'une punition directe. Je veux relire Exode 20, 7. « Tu ne prendras pas le nom de Dieu, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, il ne laissera point impuni, alors que pour les autres péchés, pour tout péché, nous pouvons demander pardon, le sang de Jésus nous purifie. Mais là, Dieu considère ça comme un affront direct, c'est-à-dire que tu parles de lui à la légère, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Attention! Vous imaginez que le président de la République vous reçoit en audience pour vos problèmes sérieux de travail, de logement, et vous entrez en audience, vous commencez à parler du dernier album qui est sorti, à parler des résultats du dernier match, à parler d'un plat. Mais le président va dire, mais attends, moi ce n'est pas le cas du Seigneur, le Seigneur a tout le temps, hein, mais là, lui, il va dire, mais avec tout mon programme chargé, avec tout ce que je peux faire pour ce monsieur, avec cette grâce qu'il vient de recevoir, d'entrer dans mon bureau, tout ce qu'il trouve à dire, c'est parler du dernier album qui est sorti de tel musicien. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est parler des résultats du match.
avec tout ce que moi je peux faire pour lui, avec cette grâce qu'il a de rencontrer le président. Mais c'est un fou, il m'offense. C'est une offense. Et tu prends le président à la légère. Bien-aimé, Dieu est invisible, mais il est là. Donc, quand tu viens prier, mais que, au fond, tu ne veux pas prier, tu es en train de te moquer de Dieu. C'est comme si il ne te voyait pas, il ne lisait pas dans le cœur. Quand tu viens prier, mais au fond, tu es en colère contre tout le monde, tu es en train de te moquer de Dieu. Mais même si tu es en colère contre tout le monde, tu es en colère contre Dieu, tu peux venir prier, mais en considérant ton problème et ton état et en venant dans cet état-là, implorer son pardon, ça, il n'y a pas de problème. Mais commencer à chanter, à glorifier Dieu alors que tu sais bien que tu es en colère contre lui. Tu sais bien que tu es en colère contre les humains. Alors ne glorifie pas Dieu. Ne fais pas ces choses-là. Commence par gérer ton propre cas. Prends Dieu au sérieux parce que Dieu voit ton cœur. Quand tu es dans ces contradictions-là, ne viens pas. Quand je dis ne viens pas, il ne s'agit pas seulement de cette salle. Il s'agit de là où tu habites. Donc n'entre pas dans la présence de Dieu. Voilà ce que je veux dire. N'entre pas dans la présence de Dieu. Vous savez que les premiers qui sont entrés dans la présence de Dieu par négligence, ils ont fui cette présence. Moïse, lui, il était entré dans la présence de Dieu dans la conscience de qui était Dieu. C'est pourquoi la présence de Dieu ne le gênait pas. Mais le peuple a demandé aussi à entrer dans la présence de Dieu comme Moïse. Moïse a dit, il n'y a pas de souci. Mais le peuple demandait ça dans un souci démocratique. Nous tous, on est pareil. Si Moïse a vu Dieu, nous tous, on doit le voir. Dans une logique de rivalité, dans une logique naturelle, pas dans une conscience de la réalité de Dieu. Moïse a dit pas de problème. Dieu a dit pas de problème, mais préviens-les qu'ils doivent se sanctifier d'abord. Moïse a prévenu. Mais malgré le fait qu'ils ont fait la cérémonie de sanctification, quand ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit à Moïse, nous préférons désormais qu'il te parle à toi et toi tu nous parles. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à rencontrer Dieu. Quand on veut rencontrer Dieu, notre cœur doit être travaillé dans le sens que nous devons nous remettre en question, nous devons nous humilier. Ces deux choses-là, nous remettre en question, nous humilier. Troisième chose, nous repentir. Nous devons considérer qui est Dieu. Tu te remets en question, tu t'humilies, tu te repens, tu manifestes la foi que Dieu aussi peut te pardonner. Nous devons prendre le nom de Dieu au sérieux. Et pour nous, ce n'est pas juste le nom comme ça. C'est qui est Dieu? Prendre tout ça au sérieux. Quand tu veux prier, tu prends la nature de Dieu. Tu te souviens de... Donc, tu médites. Je vois certaines personnes, quand on dit, on va prier, ils prennent environ 20 secondes de silence. Je crois que c'est des gens, je suppose, hein, c'est des gens qui méditent qui est Dieu. Pendant les 20 secondes, ils se mettent en position, en condition, par rapport à ce qu'ils pensent de Dieu, ils se mettent en condition. Dieu est grand. Certains trouveront ça religieux, mais c'est important de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Avant de prier, il y a comme un souvenir qui vient en toi, une pensée qui vient en toi de savoir Dieu c'est qui. Dieu, il me voit. Il connaît mon cœur. Il sait ce que je pense. Il sait ce que j'ai fait hier. Il sait ce qui me donne le dégoût. Dieu, c'est qui?
il est tout puissant. Et quand tu penses à tout ça, ta prière va être sérieuse devant lui.
Quand tu penses que Dieu n'aime pas le péché, ta prière va être sérieuse. Mais quand tu viens là comme dans un terrain de football, tu entres, tu fais ce que tu veux, tu ne prends pas conscience.
Exode 20, 7, je veux lire encore. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Ça, c'est un avertissement du Seigneur. Revoyons notre façon de prier, notre façon de suivre le Seigneur. C'est du sérieux. Dieu voit tout. C'est du sérieux, bien-aimé. On ne peut pas d'un côté dire « on veut suivre le Seigneur » et quand on nous cite un verset de la Bible, on dit « ah, vous exagérez » alors que c'est le Seigneur que toi, tu pries là, le Seigneur dont tu parles, mais c'est lui qui a écrit ce passage-là. Et on dit « ah, ils exagèrent ». Tu oublies que c'est le Seigneur qui a écrit le passage. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Vaut mieux dire « Seigneur, je m'éloigne de toi puisque... je suis impur et je ne suis pas encore prêt à te suivre. » Mais plutôt que prendre le nom de Dieu en vain, le Seigneur a dit dans Apocalypse 3, « Vaut mieux être chaud ou froid, ou tu t'éloignes, ou tu es vraiment dans le sérieux. Mais si tu es tiède, je te vomirai. » Donc tu prends le nom de Dieu en vain, tu fais des choses contraires au nom que tu pries. Tu négliges le nom que tu pries, qu'il voit tout. Tu négliges qu'il peut t'aider aussi. Car Dieu, bien-aimé, il est grand. Parlons de sa nature. Il est infini. Il est tout-puissant. Il est le Créateur. Il est amour. Il est saint. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a point de péché, il n'y a point de ténèbres. Il est lumière. Il est amour. Voilà la nature du Seigneur. C'est un juge, le Seigneur. Mais c'est aussi le sauveur. Il a aussi le titre de sauveur. Il est tout ça. En plus d'être ce qu'il est, il a des projets. Le projet de Dieu, c'est quoi? C'est sauver tout homme. Le projet de Dieu, c'est quoi dans 1 Jean 3:8? C'est détruire les œuvres du diable. Voilà tous ses projets. Et Dieu a exprimé son projet où? Dans sa parole. Donc la Bible, c'est le projet de Dieu. C'est, la Bible décrit qui est Dieu. Donc tout ça doit être considéré quand on s'approche de Dieu. Si on ne considère pas tout ça, on tombe sous le jugement à cause de Exode 27. Tu prononces le nom de Dieu en vain. Prenons un exemple pour nous aider dans Luc 18. Luc 18. Nous connaissons l'exemple. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Les deux ont prié.
les deux ont prié. Mais Jésus a dit, il n'y a que le deuxième qui a été justifié. Pourquoi le deuxième a été justifié? Parce qu'il a pris au sérieux le nom de Dieu. Il a pris au sérieux la nature de Dieu. Donc il disait à Dieu, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Parce qu'il a pris conscience que Dieu est saint, Dieu est pur. On ne doit pas s'approcher de lui avec le péché. Il a pris conscience de ça. Mais il savait aussi que Dieu est sauveur et qu'il est bon et qu'il veut sauver. Et donc, il s'approchait à cause de l'amour de Dieu qui veut sauver tout homme. Mais en même temps, il était conscient qu'il ne doit pas s'approcher. Et devant ça, il utilise l'amour de Dieu pour dire, « Aie pitié de moi, parce que je ne peux pas m'approcher de toi, parce que je suis un pécheur. » Il savait que Dieu connaissait son cœur. Il a pris Dieu au sérieux. Qu'il était amour, c'est pourquoi il vient quand même prier, mais qu'il était saint, qu'il était pur. Alors il déclare, je ne peux pas m'approcher de toi, je suis un petit, je suis un pécheur. Mais en même temps, il ne s'est pas caché devant Dieu parce qu'il sait que Dieu voit tout. Alors que l'autre, il a fait l'éloge de ses exploits spirituels, oubliant que Dieu voyait au cœur. Oubliant que Dieu était amour. Dieu n'est pas là pour mettre les hommes les uns contre les autres en disant « Je suis mieux que les autres, je suis... » Il disait « Je suis même mieux que ce publicain qui est à côté. » Il a oublié la nature de Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il est écrit dans la parole du Seigneur « Dieu résiste aux orgueilleux. » Il fait grâce aux humbles. Donc ce monsieur est venu avec tout son orgueil en face de Dieu. Mais moi, je suis parfait, Dieu. Tout le monde fait le mal, sauf moi. Mais Dieu dit, bon, d'accord, tu es puni, tu n'es pas justifié. C'est l'autre qui est justifié, parce que l'autre a pris conscience qu'il était petit devant moi. Il a pris conscience qu'il était pécheur devant moi. Il a pris conscience que j'étais bon quand même, malgré tout, pour le sauver. Voilà. On a un autre exemple, les deux voleurs à la croix. Il y a un qui est condamné. C'était une prière parce qu'il parlait à Dieu, il parlait à Jésus. Mais si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, sauve-moi, fais ceci, fais cela. Mais une prière qui ne tenait pas compte de qui était à côté là. Et il prenait le nom de Dieu en vain. Il l'a considéré juste comme un humain, comme tout le monde. Mais le deuxième a pris le nom de Jésus au sérieux. Il a dit, Jésus, nous on a fait le mal, on est pécheurs. Mais dans ta grâce, souviens-toi de moi. Il a pris le nom de Jésus au sérieux. Le nom du salut, le nom de la grâce, le nom qui sauve. Il a pris en compte le fait que lui, il était pécheur face à Dieu. Il n'avait pas de revendication à faire. Il devait s'humilier. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous savez pourquoi beaucoup de choses traînent dans les milieux chrétiens? Beaucoup de gens sont freinés. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Et ils tournent en rond à cause de ça. Ils viennent prier avec de mauvaises pensées contre les autres. Ils viennent prier dans un esprit d'orgueil, comme quoi eux, ils sont bons, ils sont parfaits. C'est les autres qui sont mauvais, qui ne comprennent rien. Ils viennent parler à Dieu comme si Dieu ne lisait pas leur cœur. Dieu dit, il y a un passage dans la Bible où Dieu dit, mais vous faites ceci, vous faites cela, et vous vous dites que Dieu ne voit pas. Donc c'est ça. Dieu considère ça comme une injure en son nom, en son encontre. Je ne vois pas moi. Moi qui ai fait l'œil, je ne vois pas. Il se fâche directement, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui écrit ce commandement, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il ne laissera pas impuni quiconque prend son nom en vain. Tu te présentes devant lui, tu commences à le prendre pour un petit qui ne voit pas, qui ne sait rien du tout. Et au fait, tu veux lui faire avaler ta logique à toi. Mais il se dit, mais ce petit-là, il me prend pour qui? C'est lui qui est Dieu ou c'est moi? il va comprendre qui est Dieu. Là, il va te faire comprendre, ce n'est pas à la fin de temps. Maintenant là même, dans les jours à venir, il va te faire comprendre qui est Dieu.
Bien-aimé, on ne blague pas avec le nom de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, sois conscient qu'il voit tout, qu'il sait tout. Même si le pasteur qui est en face de toi, le frère qui est en face de toi, la sœur qui est en face de toi, ne sait pas tout ce qu'il y a derrière ta logique, tout ce qu'il y a derrière ta pensée, Dieu sait. Maintenant, toi, tu te dis, puisque le pasteur ne sait pas, je peux dire une chose et cacher une autre. Puisque tu ne sais pas, je peux lui parler vaguement. Puisque lui ne sait pas, je peux lui donner une orientation. Mais lui, c'est un homme. Il n'a rien du tout comme puissance. Mais Dieu est tout puissant, il voit tout. Dans ce que tu fais, même si tu as affaire aux hommes en face, en réalité, tu as affaire à Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias et avec sa fille à sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'avait pas été vendu? Ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et mourut. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le Saint-Esprit a convaincu les gens de vendre des parcelles qu'ils avaient et de donner l'argent aux apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui ont demandé ça. Ce ne sont pas les disciples du Seigneur qui ont demandé ça. Les gens d'eux-mêmes, convaincus par le Saint-Esprit, ont commencé à vendre et dire, j'ai vendu, voilà tout l'argent de la propriété vendue. Et comme il y a toujours des gens qui aiment la distraction, des suiveurs, il y a Ananias et Saphira qui ont voulu aussi faire pareil. Ah, nous aussi, on va vendre, on va amener l'argent et donner à Dieu. Sauf que en vendant, ils ont pris une partie, ils ont gardé et ils sont venus dire aux apôtres, voilà l'argent de la parcelle vendue. Mais les apôtres, Pierre leur dit, mais Ananias, il dit Ananias, mais Ananias, cette maison-là que tu as vendue, cette parcelle, ça t'appartenait. Nous, on ne t'a pas demandé l'argent. Donc, que tu la vendes ou pas, c'est à toi. Et même quand tu l'as vendu, cet argent-là, il était à toi. Pourquoi venir dire que tu nous donnes l'argent de toute la maison alors que tu as retenu une partie? Pourquoi? Qui t'oblige à mentir ainsi? Donc, tu crois que Dieu ne voit pas? C'est ce que Pierre lui dit, mais tu mens à Dieu. Tu mens à Dieu. Et tout en sachant que c'est aucun homme qui t'a demandé de vendre ça. Donc, c'est Dieu qui a convaincu ton cœur. Donc, et puis, tu viens donner une partie seulement. Et quand Pierre finit son discours, Ananias meurt. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on ne meurt pas physiquement qu'on ne subit pas la colère de Dieu. Beaucoup de gens subissent la colère de Dieu parce qu'ils prennent son nom en vain. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Je précise bien, bien-aimé, que ce n'est pas le fait qu'on soit faible qu'on prend le nom de Dieu en vain, parce que le voleur à la croix était pécheur, était faible. Le publicain de Luc 18 était pécheur, était aussi faible. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux venir comme un drogué, comme un brigand auprès de Dieu, mais tu prends conscience de ce que tu fais. Tu dis, Seigneur, je suis un brigand, je suis un mauvais, je veux être délivré. Je veux être libéré. Mais toi, tu viens, tu sais que
tu as des projets de faire quelque chose. En réalité, tu demandes la prière pour tes projets en t'approchant de Dieu, sachant que ces projets-là sont contraires à la volonté de Dieu, mais tu viens demander la prière sans dire les choses comme il faut. Donc, en quelque sorte, tu demandes la protection de Dieu auprès d'un homme de Dieu ou d'un frère, sachant bien que tu es dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, mais tu viens demander l'aide de Dieu. Dieu va dire, mais tiens, mais pour qui il me prend? Il pense que moi, je ne vois pas ce qu'il veut faire là. C'est pourquoi beaucoup subissent les choses. Aujourd'hui, il faut se repentir. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Repends-toi. Vous savez, on m'a raconté qu'il y a une dame qui est morte récemment. Et elle est morte dans un pays étranger. Elle venait de la France. Mais avant de partir dans ce pays étranger, elle a été exhortée par beaucoup de personnes à ne pas y aller. Il y a eu des événements qui montraient qu'il y avait un blocage par rapport à ce voyage. Et un des événements, c'était quoi? C'est une dame qui ne la connaissait pas qui lui dit, « Je vois que tu veux voyager, mais tu risques de ne pas revenir. » Et comme d'habitude, les gens sont... C'est devenu une formule pour eux. Quand on leur dit un truc négatif, au nom de Jésus, c'est sans effet. C'est devenu une formule. Dis seulement sans effet. Mais bien aimé, ce n'est pas le sans effet qui va te protéger d'un démon. C'est la foi que le Dieu Tout-Puissant peut agir. C'est ça qui protège. Ce n'est pas le mot sans effet. Ah, mais sans effet. Mais sans effet. Ben, elle est partie, elle est morte. Parce que elle a pris les avertissements de Dieu en vain. Sa valise était bloquée dans sa chambre. Les pompiers sont venus pour forcer la porte. Donc, il y a eu toutes sortes de signes de Dieu pour qu'elle ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'on lui dise clairement, physiquement par quelqu'un, ce voyage n'est pas bon pour toi. Elle dit, mais sans effet au nom de Jésus. Ah. Elle est partie, elle est morte. Bien-aimée. C'est ça, prendre le nom de Dieu en vain. On croit que Dieu parle en vain. Dieu utilise quelqu'un, il parle en vain. On prend Dieu comme un pote, comme un ami, comme un cousin. On prend le nom de Dieu en vain. Attention, bien-aimé, tu es embarqué dans une affaire où il y a des magouilles, mais tu viens demander la prière auprès d'un homme de Dieu. Tu prends le nom de Dieu en vain. Tu es dans la haine contre certaines personnes et tu viens prier Dieu. Tu prends le nom de Dieu en vain. Tu es dans la confiance en toi-même comme si tu étais Dieu. Donc tu prends le nom de Dieu en vain quand tu viens le prier. Il dit, mais oui, mais puisque tu fais confiance en toi-même, pourquoi tu viens me prier? On ne prendra point le nom de l'Éternel en vain. L'Éternel, comme c'est écrit, ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Bien-aimé, on ne peut pas classifier le péché, hein, mais il y a des choses qui choquent plus, mais le péché reste le péché parce que ça pollue tout l'être. Mais il y a des choses qui choquent Dieu terriblement. Que quelqu'un ait volé une banane quelque part, et c'est un péché qui amène à l'enfer. Mais que quelqu'un prenne Dieu pour quelqu'un qui ne voit pas. Prenne Dieu pour quelqu'un qui n'est pas présent, alors qu'il est présent. Tu fais des choses, tu cites son nom, c'est comme s'il n'était pas là. Il dit, mais donc lui, il considère que je n'existe pas. Ça, c'est plus choquant. C'est plus choquant. Parce que celui qui a pris la banane peut demander pardon. peut dire j'ai péché. C'est le cas de deux voleurs à la croix. Il y a un qui a reconnu que c'était un brigand. Mais l'autre continue à faire des théories de philosophie pour prouver que c'était normal son état de brigand. Et que Dieu, s'il était Dieu, il n'avait qu'à le sauver. Il prenait Dieu pour un petit. Il jugeait Dieu. Il y a des gens qui jugent Dieu. Ils sont en train de prendre le nom de Dieu en vain. Toi, tu peux juger Dieu. Tu connais Dieu. Il y a des gens qui considèrent que Dieu, ils ont à pardonner à Dieu. Ça fait longtemps qu'on est chrétien, on est passé dans plusieurs milieux. Une fois, on était dans une retraite quelque part au Maroc. Il y a une dame qui donne son témoignage. À l'époque, on était des jeunes chrétiens. Elle dit que j'ai fini par pardonner à Dieu. J'ai dit, bien-aimé, je ne connaissais pas grand-chose. Je me dis, mais comment quelqu'un peut pardonner à Dieu? On commence à s'amuser. Je ne connaissais pas la Bible comme il faut. Mais je me suis dit, mais comment quelqu'un peut se permettre de dire qu'il a pardonné à Dieu? La Bible nous montre que Dieu ne fait aucun péché. En lui, il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de péché. Il n'y a point d'erreur. Bien-aimé, même si tu n'as pas compris, tu souffres de ce qui t'arrive. Jamais ne prends le nom de l'Éternel en vain pour le juger, ni le condamner. Pleure. Tu peux pleurer devant lui. Tu peux dire, Seigneur, pourquoi? Mais ne dis pas, Seigneur, tu as tort. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Ne dis pas, Seigneur, tu te trompes. Maintenant, il y a des gens qui diront, mais moi, je ne dis pas, tu te trompes. Je ne dis pas que tu as tort. Mais ton attitude, tes prises de position, tes actes montrent que tu condamnes Dieu. Parce que tu t'opposes à ce que Dieu t'a demandé de faire. Je donne l'exemple de Samuel qui a dit à Saül qu'il fallait éliminer tout le produit qu'il gagnerait, tout le butin qu'il aurait gagné après la guerre. Saül a gardé les grosses vaches, les taureaux en bonne santé, les brebis en bonne santé, il les a gardés. Et Samuel dit, mais je t'avais dit quoi? Oui, mais tu m'avais dit de tout tuer, mais là, j'ai gardé pour sacrifier à Dieu. Mais Samuel dit, mais non, il fallait obéir à l'ordre de Dieu. Toi, tu veux croire que Dieu est bête quand il t'a donné cet ordre-là? Il ne sait pas qu'on doit le sacrifier des animaux. Lui, il t'a dit de dévouer à interdire, c'est-à-dire d'éliminer. Et on veut faire raisonner Dieu. Il dit que, mais non, comprends que ça va servir à telle chose. Dieu dit, mais non. Toi, tu es plus intelligent que moi. Est-ce que tu connais l'avenir? Avant que tu naisses, et Samuel a dit à Saül, mais toi, tu n'étais rien du tout. Moi, j'ai fait de toi, Dieu t'a fait roi. Et tu veux faire réfléchir Dieu. Comme beaucoup lisent la Bible, ils disent, mais là, il y a un problème. Au lieu de dire, là, je ne comprends pas, j'ai un souci. Ils disent, il y a un problème. Non, c'est toi qui as un souci, tu ne comprends pas. Sois humble. Demande l'explication à Dieu. Ne commence pas à dire, mais là, il y a des soucis dans la Bible. Hein? Non. Là, moi, j'ai des soucis. Hein? Je ne comprends pas ça. Voilà. Bien-aimé. Toi, tu peux être plus intelligent que Dieu. Qui a fait les cieux et la terre? Qui t'a créé? Maintenant, votre excuse, c'est toujours quoi? L'excuse des humains. Ah oui, mais c'est les hommes qui ont écrit. Oui, mais Dieu est capable d'utiliser les hommes à la perfection. Il est tout puissant. Voilà, rapidement, nous allons citer les qualités de Dieu et la manière de s'approcher de lui par conséquence. Dieu est saint, il est tout puissant, il est saint plutôt, il est pur. Et donc, quand on s'approche de lui, on doit prendre ça en compte. On doit prendre ça en compte. Vous vous imaginez un médecin qui va entrer dans la salle d'opération, avec une bouteille de whisky, et puis avec les vêtements d'hier, sales. Bien-aimé, c'est les infirmières qui vont le chasser à coups de karaté, bien-aimé. Mais qu'est-ce que... C'est la salle d'opération.
dans la salle d'opération, on entre propre, tout doit être aseptisé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant d'entrer dans la salle d'opération? On passe par le processus de stérilisation, de purification, tout ce qu'on veut. Et donc, quand tu veux t'approcher de Dieu, sache que c'est la salle d'op là-bas. Salle d'opération. Tu dois passer par où? Il y a des hommes qui chantent le chant. Are you washed in the blood, in the cleansing, blood of the lamb? Donc, est-ce que tu as été lavé par le sang de l'agneau pour entrer là? Pour entrer dans la présence de Dieu, nous entrons par le rideau du sang de l'agneau. Tu passes purifié par le sang de l'agneau et tu peux parler maintenant. C'est ça, la présence de Dieu. D'abord par le sang de l'agneau. Ainsi, tu es pur, tu peux parler. Mais venir avec tes exploits, « Oh, moi j'aime Dieu, moi j'aime... » ça ne compte pas tout ça. Car Dieu est pur et saint. Quand tu t'approches de lui, sache qu'il n'accepte pas le péché dans sa présence. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme le monsieur, le publicain de Luc 18. Il dit, Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi. Je suis impur. Et nous ajoutons cette prière, mais à cause du sang de Jésus qui me purifie, je peux maintenant m'approcher de toi et te parler. C'est ça, bien-aimé. Dieu est saint. Il faut tenir compte de cela quand on veut s'approcher de lui. Dieu est amour. Il ne faut pas l'oublier non plus. Pour dire je suis mauvais, je suis mauvaise, je reste dans mon coin, Dieu ne m'acceptera pas. Ah non, Dieu est amour, il veut sauver. Il est écrit, nous sommes sauvés par grâce. C'est un cadeau de Dieu. Pourquoi tu veux mériter un cadeau? Un cadeau, on ne le mérite pas, c'est un cadeau. Pourquoi tu veux t'obliger à commencer à faire beaucoup de bien? Après là, tu vas commencer à venir vers Dieu. Non, Dieu dit, viens tel que tu es par sa grâce. Il peut, si toi tu le désires, si tu désires changer de vie, il peut te purifier et te donner une force nouvelle, la puissance, sa puissance pour vaincre le mal. Il ne te demande pas de venir à lui parfait, tel que tu es, mais dans le souci de qui il est. Tu viens tel que tu es, mais tu sais que Dieu n'aime pas ce que tu es. Tu sais que Dieu est tout puissant aussi pour te changer. Et quand tu viens comme ça, tu dis, Seigneur, à cause du sang de Jésus, je viens te demander de me changer. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Tu viens tel que tu es, mais tu dis, c'est le sang de Jésus qui me permet de m'approcher de toi. Vous savez, ça, le diable n'aime pas ça. Le diable était en colère de voir le voleur à la croix partir au ciel comme ça. Un grand voleur, bandit, crucifié, à la dernière minute, il part au ciel. À cause de tel que je suis sans rien en moi. Le voleur a dit, je n'ai rien. Sinon, ton sang versé pour moi. Mais celui qui ne profite pas de ça, c'est son problème. Qui continue à être méchant, dans la colère, dans le mensonge. Alors que c'est simple, aussi simple que ça, de dire tel que je suis, Seigneur, purifie-moi. Celui qui vient dans un esprit de jugement comme l'autre voleur, juger Dieu, juger les autres. Dieu dit, tu vas rester là, tu vas comprendre. Quand nous, on va manger les hamburgers au ciel, toi, tu es en enfer, tu ne bois même pas l'eau, tu vas comprendre. Bien-aimé. Tel que je suis, Dieu est saint, il est pur. Tu viens tel que tu es, mais tu passes par le sang de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne. Ah, j'aime aussi la parole de Luc 7. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Ça, c'est le centenier romain. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. C'est pourquoi même je ne me suis pas permis de venir. Lisons Luc 7. Voilà les prières que le Seigneur attend. Au lieu de venir là directement, tu commences à parler.
Mais tu parles comme si c'était un concours de théâtre. Non. Luc 7.
Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Alors, quelle est la réponse du Seigneur? Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Mais finissons la prière du centenier. Elle est tellement belle, il ne faut pas la couper. Verset 8. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Guéri. Parce que la prière, c'est la prière que Dieu attend. C'est la prière que Dieu attend. Seigneur, je ne suis pas digne, mais à cause de ton amour, à cause du sang de Jésus, je me permets de venir te parler. Et tu as le cœur total, transparent, tu dis tout. Mais quand tu parles à Dieu en te disant, je peux le tromper, et tu crois, parfois quand tu te confies en quelqu'un d'autre, tu ne dis pas tout, tu fais les zigzags. Mais le Seigneur dit, mais il ne comprend pas que c'est de moi qu'il s'agit là. Cet homme qui est en face de lui n'est qu'un homme. Ça pouvait même être qu'une photo. Mais c'est à moi qu'il est en train de s'adresser. Dieu dit, mais il me prend pour rien du tout. Il est en train de prononcer mon nom en vain. Ne prononçons pas le nom de Dieu en vain, bien-aimés. Dieu est amour, on l'a dit, grâce. Il nous sauve par grâce, on doit savoir ça. Approchons-nous de lui dans cet esprit de grâce. Ne cherchons pas à faire des exploits avant de nous approcher de lui. Approchons-nous de lui humblement et demandons la purification de nos péchés. Dieu est présent, bien-aimé, quand nous avons réunion, Dieu est présent. Quand nous prions, Dieu est présent. Il y a des gens qui prient tout le temps avec le portable à côté. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler avec le président Hollande ou tout ça avec ton portable en train de faire des textos? Il y a des gens qui prient, qui sont en train de se parler. En même temps, on est en prière, ils se parlent, ils discutent. Et il y a des gens qui oublient que Dieu connaît aussi l'heure. Ils pensent que Dieu est à l'heure du Bangladesh. On a dit réunion à 20h, eux ils viennent à 20h45. Ils ont créé leur propre heure. Dieu dit, mais on s'était donné rendez-vous à 20h45. Ah oui, mais à 20h plus tôt. Mais oui, mais je n'avais pas encore fini le maquillage. Ah, mais Dieu dit, bon, d'accord, dans ce cas, le maquillage n'a qu'à te sauver. Bien aimé. Non! Dieu connaît l'heure. Dieu connaît l'heure. Je me suis fâché au Maroc. Il y a un frère qui a voulu retarder la prière parce qu'il n'avait pas encore mangé. Mais attends, tu savais que c'était à telle heure? Maintenant que tu n'as pas encore mangé, tu veux retarder de 15 minutes. J'ai failli exploser.
Dieu, il faut le prendre au sérieux, il est présent. Il ne faut pas faire comme s'il n'était pas là. Ou nous sommes en prière, tu veux jouer la star par ta voix ou bien par ton chant. Mais non, quand on est avec Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a qu'un seul qui est sur le trône, c'est Dieu lui-même. Donc sois tranquille. Il y en a qui veulent prier plus que tout le monde, chanter plus fort. Mais non, tu n'es pas la star. C'est Dieu qui est le roi des rois. Vous savez, moi je suis conscient que j'énerve les gens quand je parle. Mais je n'ai pas le choix, c'est la vérité. Parce que Dieu seul est grand. Voilà, je ne suis pas en train de parler d'un homme, je suis en train de parler de Dieu. Donc quand on est dans sa présence, il faut être sérieux. Il faut que l'homme s'humilie, que Dieu soit considéré. C'est clair. Et quand on a donné rendez-vous à Dieu, c'est il faut respecter l'heure. Et quand on est en retard, il faut déjà, donc avant d'entrer, tu demandes pardon déjà. Ah oui. Mais tu ne peux pas être tranquille, voilà. Certains viennent même en retard, ils commencent à faire d'abord des bisous aux gens, mais maintenant, mes bien-aimés, tu es venu en retard, demande d'abord pardon et commence à servir l'Éternel. Dieu est sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est clair, bien-aimé. Dieu est présent. Même si on ne le voit pas, il est présent. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 18, je crois, au verset 20, là où deux ou trois sont réunis, en son nom, il est là, au milieu d'eux. Donc il faut prendre ça au sérieux, bien-aimé. Il faut qu'on apprenne ça à nos enfants. Parfois, on se dit, ah, mais c'est des enfants, ils n'ont qu'à déranger. Non, quand on est en train de prier, nous sommes tous concentrés sur le Seigneur. Et les enfants prennent parfois des positions qui sont inadéquates. Il faut qu'on les redresse toujours. Il ne faut pas qu'on se fatigue. C'est pour leur bien. Souvenez-vous d'Exode 27. Si quelqu'un prend le nom de Dieu en vain, il est puni. Bien-aimé, c'est avec souffrance que je vous le dis. Parce que je suis conscient de combien les gens subissent à cause de ce verset-là. C'est pas un verset que comment enseigner pour venir dire quelque chose. Non, c'est venu de Dieu, bien-aimé. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Ne laissons pas les enfants prendre le nom de Dieu en vain. Parce que quand ils seront grands, ils continueront comme ça. Ils continueront. On ne demande pas de les amener à la conversion forcée, pas du tout. S'ils sont dans la prière avec nous, qu'ils soient sérieux comme nous. C'est tout ce qu'on demande. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Quand on le prie, on doit considérer sa toute puissance. Quand on est en communion avec lui, on doit considérer sa toute puissance. Il y a des gens, dès qu'on commence à dire, Dieu va faire. Ah, lui, il dit toujours Dieu va faire. Mais il a raison de dire que Dieu va faire. Nous, on n'est pas dans son cœur pour savoir que c'est une formule. Si quelqu'un répond toujours, Dieu est tout puissant, il va faire. Nous devons être heureux de cette réponse-là, même si on a peu de foi. Mais se moquer des gens qui disent tout le temps, Dieu va s'en occuper, Dieu va faire, c'est pas bon. Donc nous remettons en question la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et il y a des gens qui sont toujours à mettre des bémols. Mais ça va être difficile. Est-ce qu'on aura les moyens pour... Mais à quoi ça sert qu'on prie Dieu? Si on prie Dieu, c'est parce qu'il est tout-puissant. Ne prenons pas son nom en vain. À quoi ça sert? Il y a des gens qui sont tout le temps à dire, ah, je suis tout seul. Est-ce que Dieu va m'écouter? Il fallait qu'on soit nombreux. Mais non, Dieu n'a pas dit qu'il fallait être nombreux. Dieu a dit que lui, il faut qu'il soit là. Parce que c'est lui qui fait la différence. Qu'on soit nombreux ou pas, Dieu écoute et c'est lui qui va agir. Il est écrit dans Ézéchiel 22, 30, il cherche un homme. Il n'a pas dit il cherche plusieurs, il cherche un homme qui va intercéder, qui va prier. Dans Jacques 5, il dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc quand on est dans la présence de Dieu, croyons qu'il est tout puissant pour répondre à tous nos besoins. Il est tout puissant pour résoudre le problème. Et même si notre foi est petite, utilisons la petite foi pour dire Seigneur, je sais que je suis déstabilisé, mais je crois quand même fondamentalement que tu peux résoudre l'affaire.
C'est ce qu'il attend de nous.
Je pourrais dire plusieurs choses sur Dieu, mais nous connaissons, tout est dans la parole. Et ce qui nous est demandé, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas, il ne faut plus prier pour prier. Il ne faut plus faire les choses de Dieu pour faire. Il faut le faire en esprit et en vérité. Car Dieu, dans Jean 4, il cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut plus désormais être dans la distraction, dans le service de Dieu, et dans les prières, et dans la marche spirituelle. Il faut prendre conscience que Dieu est tout-puissant, il va régler les choses. Il faut prendre conscience des inspirations qu'il nous envoie par le Saint-Esprit. Un chant qu'il t'envoie pour t'encourager, au lieu de le prendre au sérieux, tu continues à prendre ton état de dépression plus au sérieux que le chant que Dieu t'a envoyé en esprit pour t'encourager. Au lieu de dire, ah, Dieu m'encourage là. Mais il y a des gens qui disent, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de mes souvenirs. Mais pourquoi ça vient de tes souvenirs au moment où tu en as besoin? Il y a des gens qui veulent accuser Dieu que Dieu ne les aime pas. Il ne va pas penser à eux pour leur envoyer un chant. Il ne va pas penser à eux pour leur envoyer un verset. Si Dieu t'aime au point qu'il a crucifié, il a laissé son fils être crucifié pour toi, même si tu étais seul dans le monde, il l'aurait fait pour toi parce qu'il est amour. Donc quand il t'envoie un soutien, prends au sérieux le soutien qu'il t'envoie. Ne te dis pas, ah bon, moi je ne mérite pas qu'il me soutienne comme ça, mais est-ce que Dieu peut-il penser à moi? Oui, il pense à toi, plus que tu ne le crois. Tout ça, c'est la nature de Dieu, il faut la connaître. Dieu aime tous les hommes, à fond, même les plus mauvais, il les aime. Donc si tu t'estimes être très mauvais, Dieu t'aime quand même, il pense à toi. Donc prends au sérieux les chants qu'il peut t'envoyer dans la tête. Prends au sérieux les versets qu'il peut t'envoyer. Prends au sérieux la phrase que peut sortir quelqu'un dans la rue. C'est peut-être un message pour toi. Du moment que ça colle avec avec ton problème, prends au sérieux. On n'a pas dit que forcément c'est Dieu, mais déjà prends au sérieux et Dieu continuera à travailler. Il y a des gens qui sont tellement concentrés sur leurs problèmes qu'ils ne prennent plus au sérieux tout ce que Dieu peut faire autour pour eux, en leur faveur. Ils ont perdu la notion de l'amour de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Ils sont dans une logique, dans une relation d'œuvre et ils mènent une vie sèche. Adorez bien-aimé en esprit, en vérité. Évitez les prières machinales, bien-aimé. Les prières d'habitude, c'est sans effet. Non, il faut être sérieux. Quand tu dis sans effet, tu dis vraiment avec sérieux. Quand tu dis « toute âme forgée contre moi est sans effet », tu le dis avec sérieux, ce n'est pas de la blague. Il faut éviter les routines, de prier par habitude. Il faut éviter, même le Seigneur nous donne ce conseil. Attention, ne vous confiez pas à la multiplicité des paroles. Il dit c'est les pharisiens qui font ça. Ils multiplient les paroles. Ils croient que la multiplication des paroles, c'est ça l'efficacité de la prière. Non, l'efficacité de la prière vient de la profondeur du cœur, du poids que tu donnes à chaque mot. C'est ça la prière que Dieu attend de nous. Donc c'est ça prendre son nom en respect. Lorsqu'on parle, on ne se souvient même plus de ce qu'on a dit. Ben, on est en train de prendre le nom de Dieu en vain. Il faut, bien aimé, croire. Il faut croire. Quand on s'approche de Dieu, on doit croire. Lisons Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Sinon, il n'est pas agréable à Dieu. Sinon, il est en train d'offenser Dieu. Il faut croire qu'il rémunère. Donc, il faut croire qu'il va te répondre. Il va croire qu'il faut agir. Mais bien aimé, je suis d'accord qu'on peut être déstabilisé, avoir une petite foi. Ce n'est pas grave. On dit les choses avec la foi que nous avons, Dieu entend. Et il va nous augmenter la foi pour nous pousser à prier davantage avec foi maintenant. Mais il faut être entier, il faut être normal, il faut pas chercher à être religieux, s'inventer une fausse foi qu'on n'a pas. Non, il faut dire les choses telles que ça vient dans son cœur, mais en croyant que Dieu peut changer les choses. Il faut être sincère, bien-aimé. Si on n'est pas sincère, on est en train de se moquer de Dieu, on tournera en rond. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs souffrent, parce qu'ils prient pour des choses sans discernement. Les choses que les gens parfois viennent demander comme sujet de prière. Si tu pries pour cela sans discernement, tu vas te fatiguer et tu vas parfois même toi-même t'attirer la colère de Dieu. Parce qu'il est écrit qu'on ne doit pas imposer les mains bêtement à n'importe qui parce qu'on participe au péché des gens. Ça veut dire que certaines prières sont en fait des punitions de Dieu. Le problème de certaines personnes, c'est des punitions de Dieu. Et quand toi, tu pries pour ça, bêtement, sans discernement, tu es en train de participer. Ce n'est pas moi qui parle, c'est écrit. C'est écrit. Beaucoup de gens prennent le nom de Dieu en vain et ils ont des problèmes à cause de ça. Et donc, il faut que Dieu nous éclaire en tant que serviteurs de Dieu pour dire, j'ai entendu tes soucis, mais ne penses-tu pas que la source de tes problèmes, voilà. Mais prier juste pour, comme un médecin pour satisfaire la personne qui est en face de toi, non. Il faut qu'on apprenne à analyser les prières, à savoir comment répondre aux soucis des gens par la sagesse du Saint-Esprit. Et certaines personnes parfois ne croient pas en Dieu. Certaines personnes parfois ne croient pas que Dieu les aime. Et tu vas prier, tu participes à leur péché. Donc il faut commencer par leur montrer que Dieu les aime. Il faut croire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Sinon, il est en train d'offenser Dieu. Il ne lui est pas agréable, donc il offense. Je clôture en disant ceci. Le commandement que Dieu donne là, c'est un commandement. Je vais donner deux raisons pour ce commandement. Comme je ne suis pas Dieu, il y a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas. Je vais donner deux raisons importante. La première raison, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux et il ne supporte pas qu'on lui manque de respect. C'est pourquoi il ne faut pas prendre son nom à la légère. Il ne faut pas prendre son nom en vain. Il ne supporte pas qu'on le rabaisse au niveau d'un humain ou d'un faux Dieu. Il dit dans Ésaïe 42:8, lisons Ésaïe 42:8. Ésaïe 42:8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, il refuse qu'on le diminue comme quelqu'un d'autre. Pour lui, quand on le diminue, c'est-à-dire on donne sa gloire à quelqu'un d'autre. Il refuse ça, ni aux idoles, ni aux faux dieux. Donc, il faut connaître la conception maximum de Dieu, sinon c'est une offense. Ça ne veut pas dire qu'on a des difficultés. On n'aura pas des difficultés. On a des difficultés, mais Dieu doit rester dans notre conception comme tout-puissant, capable de tout, bon, amour, pur. Donc, il doit rester ce qu'il est vraiment dans nos têtes. Sinon, c'est une offense à Dieu. Mais la deuxième raison est pour notre avantage. Dieu, au fait, par ce commandement, il permet qu'à chaque fois qu'on va s'approcher de lui, on soit tellement sérieux qu'il nous bénisse. Qu'on soit sérieux et qu'on vive sa gloire. Qu'on soit sérieux et qu'on vive son amour. Au fait, c'est nous qui sommes bénis par ce commandement. C'est pourquoi David dit, ouvre-moi les yeux que je contemple les merveilles de ta loi, dans le psaume 119. C'est-à-dire, le commandement de Dieu, ce sont des merveilles. Au début, ça donne l'impression que ça nous fait peur. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit t'explique, tu te rends compte, mais c'est pour nous, c'est un avantage. Désormais, quand je vais commencer à prier Dieu, je vais être sérieux, je vais avoir la foi, je vais savoir qu'il m'aime, je veux savoir qu'il est saint, et je m'approcherai de lui, purifié par le sang de Jésus, gratuit, et je serai béni. C'est pour moi qu'il me donne ce commandement, afin que Satan soit confondu, que mes prières ne soient pas des temps perdus, mais soient des temps efficaces. Au contraire, c'est un commandement qui nous est favorable, bénéfique, bien-aimé. Dieu, par ce commandement, il veut nous dire, mais c'est moi qui agirai, c'est pas toi. Prends mon nom au sérieux. Jésus a dit dans Jean 14, 12, « Demandez en mon nom tout ce que vous demanderez. Vous recevrez, vous ferez des exploits. Vous en ferez même plus que moi j'en ai fait. » En mon nom, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Dans Philippiens 2, c'est dit que le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout temps confesse qu'il est Seigneur. Or, nous avons tendance à penser que c'est ma prière qui va faire la chose, c'est ma façon de prier, c'est ceci, cela. Et Dieu veut dire, non, c'est son nom. Alors quand tu t'approches de moi, prends mon nom au sérieux et tu verras ce que je veux faire. C'est à notre avantage, bien-aimé. Ce commandement, il paraît menaçant, mais il est à notre avantage. Parce qu'il nous permet d'entrer dans sa présence avec assurance, sachant que c'est à cause de son nom qu'il fera. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 29. Ézéchiel 29, il dit ceci. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu a agi à l'égard pour son nom. Donc c'est pourquoi quand on entre dans sa présence, il faut que ce soit son nom qui soit élevé. Il faut qu'on adore Dieu vraiment tel qu'il est. Il ne faut pas qu'on chante puisque tout le monde est en train de chanter, tout le monde est en train de prier. Il faut que quand tu chantes, tu penses vraiment à Dieu tout ce qu'il est. Et tu le chantes dans cet esprit-là. Parce que c'est pour son nom qu'il va agir. Et par son nom aussi. C'est un commandement agréable. Parce que ça fait de l'homme petit et Dieu grand. Et on peut venir tout petit devant lui, le Dieu grand va agir. Parce que j'ai mis son nom au-dessus. Il y a un Chinois de 32 ans environ qui n'avait jamais connu des miracles extraordinaires dans sa vie ou vraiment, qui n'avait pas d'expérience même dans les choses de Dieu. Et un jour, il y a une dame, vous savez que le christianisme est interdit en Chine, parce que le témoignage est long, j'écoute le témoignage, pour nous montrer la puissance du nom de Jésus. Une dame a vu son mari attraper le cancer. Son mari était chef du secrétaire du parti communiste de sa région. C'est un homme important. Mais il a eu le cancer et sa femme cherchait qui pouvait sauver son mari. Les médecins ont échoué, elle a cherché partout. Un jour, quelqu'un lui a dit, je connais les gens de l'église cachée de Jésus. Et ils prient pour, et il y a des miracles qui se font. Ah bon, où je vais les trouver? Mais le chef de police lui dit, mais justement, ils sont cachés, comment on va les trouver? Il prie, il se cache pour prier, puisque le christianisme est interdit. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? J'aime les gens qui cherchent le Seigneur. Si on pouvait leur ressembler, bien-aimés, nous qui avons déjà trouvé le Seigneur. Cette dame a commencé à se promener sur la rue principale, demandant à chaque personne qu'elle rencontrait en face, est-ce que toi tu es de l'église cachée de Jésus? Est-ce que toi, tu es l'église cachée de Jésus? Même les vrais chrétiens disaient non, parce que si, c'est peut-être un espion ou bien du gouvernement, on t'attrape, c'est la prison. Mais elle est tombée maintenant sur un combattant jusqu'à la mort, guerrier qui n'avait pas... Il dit, mais toi, tu es de l'église cachée de Jésus? Il dit, non, je suis de l'église visible de Jésus. Amen. Quel est ton problème? Comme Élisée avait dit quand on a parlé du cas de Naaman, amenez-le vers moi. Il dit, quel est ton problème? Il dit, mon mari est prêt de mourir et je souhaiterais que tu viennes prier pour lui pour qu'il soit guéri, que tu l'imposes les mains. Il dit, là, j'ai plusieurs réunions à faire ce soir-là. Je dis à l'hôpital que je viendrai demain à 9h. Et la dame donne les instructions à l'hôpital. Le monsieur viendra à 9h. On lui dit, mais il est déjà mort là maintenant. Il dit, ah, bon, c'est pas grave, le monsieur viendra à 9h. Montre-lui l'endroit. Le chrétien, il arrive à 9h. Il dit, mais c'est où la chambre? On lui dit, non, c'est maintenant en dessous, dans la morgue.
Il se fait accompagner par deux employés. On lui ouvre le tiroir. Il adore le Seigneur. Il élève le nom de Dieu. Il élève le nom de Jésus. Et il s'en va. Le lendemain, il leur dit, je reviendrai encore demain à 9h. Remettez-le dans le tiroir. Vous savez, remettre dans le tiroir, c'est-à-dire c'est frigorifié. Hein? Ah, remettez-le dans le tiroir. Le lendemain, il vient à 9h encore. Il fait encore. Mais là, il n'y avait pas que deux personnes, il y avait plusieurs personnes qui ont entendu. Mais il y a un type qui est venu quand même prier pour le monsieur. Ils sont venus, nombreux. Un certain nombre plutôt. Il entre, il prie, il chante. Et puis il dit au monsieur qui était mort, il dit que je sais que tu entends tout ce que je dis. Est-ce que tu peux faire un clin d'œil? Le monsieur fait un clin d'œil. Eh bien, c'est pas fini. Il dit, remettez-le dans le tiroir, je reviendrai demain à 9h. Ah, mais je sais que nos chrétiens actuels sont en train déjà de chauffer, mais ils n'avaient qu'à les ressusciter une fois pour toutes. Là. Mais il remet encore à la mort. Mais oui, il n'y a pas de méthode, c'est le nom de Jésus qui compte. Et on va savoir pourquoi lui faisait ça. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Vous savez pourquoi il faisait ça? Parce que lui, il avait lu dans la Bible que Jésus était ressuscité le troisième jour. Donc, il ne savait pas comment on fait les choses. Il sait seulement que son maître est ressuscité le troisième jour. Donc, remettez-le dans le tiroir, même s'il a bougé l'œil. Demain, je viens à 9h. Demain, il vient encore à 9h. Il adore, il chante. Là, maintenant, c'était rempli. Hein. Tout le monde, beaucoup de gens suivaient. On a entendu que l'œil a bougé. Donc, c'était la foule. Donc, il vient là, il fait sa prière, il dit, maintenant, je te réveille au nom de Jésus, chef du Parti communiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Quand il sort seulement de l'hôpital comme ça, le monsieur se lève, il vomit le cancer. Première phrase, Jésus est vivant. Amen. 3 jours. Tout simplement, c'est parce que ce frère croyait à la puissance de Jésus. Ce n'était pas quelqu'un d'expérimenté, ce n'est pas quelqu'un qui avait fait des exploits autrefois, c'est quelqu'un qui croyait tout bêtement que c'est Dieu qui avait envoyé cette dame sur son chemin, c'est que Dieu, à cause de son nom, veut faire quelque chose. Bien-aimés, ne prenons pas le nom du Seigneur en vain. C'est à notre avantage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci de nous aider à redevenir sérieux avec toi dans la façon de te servir. Même si nous sommes faibles, Seigneur, toi tu es tout puissant. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux ton nom et lorsqu'on s'approche de toi, vraiment que nous puissions nous approcher avec foi, avec détermination, que nous puissions nous approcher avec humilité, sachant que tu es saint, tu es pur, que nous puissions nous approcher, nettoyés par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, et non pas nous approcher avec des doutes immenses, comme si c'est nous qui allons régler nos problèmes, que nous puissions faire confiance en ton nom, Seigneur. Ô Éternel des armées, aide-nous. Béni soit ton nom, Seigneur.